France Musique. Open Jazz, Alex Dutille, France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir Pierrick Pedron, je devrais dire good afternoon. Vous revenez de New York. Bah, pas hier, mais pour aller enregistrer cet album pour une partie de vos 50 ans.
C'est vrai.
50-50.
Bonsoir Alex.
Bonsoir Pierrick. Je regarde les musiciens qui vous accompagnent et je me dis que vous avez des goûts de luxe, Pierrick Pedron. Sullivan Fortner au piano, Larry Grenadier à la contrebasse, Marcus Gilmore à la batterie.
Mais vous avez raison.
Vous avez les moyens de vos ambitions, manifestement.
Oui, je suis extrêmement fier d'avoir ces musiciens sur mon disque, effectivement.
Et alors, il n'y avait pas que eux, parce qu'il y a aussi un personnage qui est venu jouer un rôle d'aiguillon, pas de producteur, mais de conseiller. C'était l'oreille extérieure.
Ah oui, Daniel Ivinec. Vous voulez parler de Daniel ?
Oui, absolument. Ouais. Et alors, c'est la première fois que vous aviez recours comme ça à quelqu'un qui vous donnait un regard extérieur au fur et à mesure du travail ?
Non, pas du tout. Non, j'ai déjà travaillé avec plusieurs réalisateurs, mais pour moi, c'est indispensable. J'aime être entouré, en fait, d'un réalisateur sur un projet, sur un enregistrement.
C'est comme moi, j'ai Fabien Flora tous les jours.
Ah bah voilà. Bah d'ailleurs, une prochaine fois peut-être. C'est très important d'avoir des oreilles extérieures comme ça, parce que quand on est concentré en fait sur la musique, quand on est en studio, qu'on enregistre, on ne sait pas forcément, on ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de difficultés à prendre des décisions à ce moment-là. Donc Daniel a été fantastique pour justement m'aider.
Donc la fameuse question qu'avait posée une fois une hôtesse de l'air à Dave Brubeck, vous êtes combien dans le quartet ? Vous répondez 5.
Oui, c'est un peu ça. Alors je dirais même 6. Voilà.
C'est qui le sixième ?
Je dirais l'ingénieur du son quand même, parce qu'on pense jamais trop
à
ces gens-là, et c'est James Farber, et c'est magnifique de l'avoir eu quand même.
On va l'entendre dans un instant, le son est exceptionnel dans cet album qui sort sur un label de musiciens, sur le label de Laurent de Wilde,
oui.
Gazebo. Et comme vous êtes venu, il y a une petite pile à côté de nous là, avec des petits marqueurs d'ailleurs pour les dédicaces tout à l'heure, 10 exemplaires à gagner. Voici quelle est la question à laquelle il faut répondre par l'onglet « Contactez-nous » sur la page Open Jazz, sur francemusique.fr. Nom, prénom, adresse, bien sûr. Et la réponse qui vous semble être la bonne à cette question qui va vous rappeler des souvenirs, Pierrick. D'accord. En 2005, pour votre troisième album qui s'appelait « Deep in a Dream », vous étiez déjà allé enregistrer une première fois à New York. Qui était le pianiste de « Deep in a Dream » de Pierrick Pedron en 2005? Par ordre alphabétique, Fred Hirsch, Kenny Kirkland ou Mulgrew Miller? Fred Hirsch, Kenny Kirkland, Mulgrew Miller. Qui était le pianiste de Deep in a Dream? J'aperçois Arnaud Merlin de l'autre côté de la vitre qui croit avoir gagné. Je suis sûr qu'il fait une erreur.
Thank you.
Let T, la lettre T, c'est la plage d'ouverture de votre album. J'ai pas pu résister à commencer. Les extraits de votre album 50-50, Pierrick Pédron, avec ce titre explosif.
Oui.
Et avec vous, explosif aussi, tous les trois. Sullivan Fortner au piano, Larry Grenadier à la basse et Marcus Gilmore à la batterie. Oui. Sullivan Fortner en congé de chez Cécile McLaurin-Salvant, oui, entre autres. Larry Grenadier en congé de Brad Meldo, oui, entre autres. Et Marcus Gilmore, il faut rappeler, vous le savez évidemment, oui, que c'est le petit-fils de Roy Haynes.
Oui.
Et il y a les gènes là-dedans, hein. On entend que l'histoire de la batterie est dans ses mains et ses pieds. Et alors, pourquoi Bullet T?
Alors, Bullet T, c'est le TGV, en fait, le TGV japonais. Il m'arrive assez souvent d'aller au Japon. Enfin, il m'arrivait, puisqu'en ce moment, c'est un petit peu difficile.
Vous ferez 60-60 avec un enregistrement au Japon.
Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Bullet T, c'est le train rapide, en fait. C'est le Shinkansen. Autrement dit, c'est le TGV japonais. Donc, Bullet T, c'est quelque chose qui va très vite. Et je me disais que ça irait bien avec ce morceau.
Ah oui, qui est up-tempo. L'énergie, ça fonce. On sent que la vitre du studio, vous l'avez enregistré donc à New York. C'était quel studio d'ailleurs à New York?
Sear Sound à Manhattan.
C'est dans Manhattan.
Ouais, c'est dans Manhattan, absolument. Ouais. C'est marrant parce que ça ressemble un petit peu à un salon, ce studio. C'est une lumière très feutré, on se sent bien dans ce studio.
Comme dans celui d'Open Jazz.
Exactement. Voilà, c'est exactement le même d'ailleurs. Je me demande si c'est pas là que j'ai enregistré.
Ben, on a Audrey Gelly, et pas James Farmer à la technique aujourd'hui, mais ça pourrait, voilà. Ouais. En tout cas, Pierrick Pédron, ce choix de Sullivan Fortner, Larry Grenadier et Marcus Gilmore, c'était le vôtre au départ ou vous avez raisonné par défaut?
Alors, vous savez, au départ, c'est toujours un petit peu des rêves, des fantasmes qui s'installent comme ça. On discute et c'est en général, je ne sais pas pour quelle raison, mais autour d'une table. Donc, avec Daniel, on partageait nos envies, nos idées à savoir qui pourrait jouer sur ce disque-là.
Et entre l'entrée et le dessert, ça a évolué.
Et ça a bien évolué. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, je devais aussi écouter ces musiciens. Et je me suis dit, pourquoi pas, allons, on essaie.
Voilà. Boum! le sens des titres qui marquent après Buletti, Boom, Pierrick Pedron. Vous avez, j'imagine, avec pour votre quartet, votre trio américain qui vous accompagne dans cette séance, vous aviez écrit sur mesure. C'est des compositions que vous prépariez pour cet album ou vous avez sorti des choses des tiroirs, Pierrick Pedron?
Alors, la manière de procéder est assez spécifique. C'est-à-dire que, habituellement, je ne faisais pas ça. J'avais commencé déjà sur Unknown à composer de cette manière. C'est-à-dire que je m'enregistrais assez souvent en faisant des improvisations libres avec mon petit dictaphone pendant des heures. Et après, je trouvais des extraits dans ces improvisations de motifs qui me plaisaient. Et à partir de ce moment-là, j'écrivais un thème qui n'était pas harmonisé. C'est-à-dire qu'il y avait simplement une ligne
juste
mélodique.
Juste la ligne.
Juste la ligne mélodique. Et j'ai fait appel à un ami à moi qui s'appelle Laurent Courtaliac. Et je trouvais assez marrant, justement, de juxtaposer les deux principes, c'est-à-dire quelque chose d'assez éclaté. Et connaissant son expérience et son amour pour le bebop, je voulais avoir quelque chose de la tradition, quand même. Donc, ce qui a été assez marrant, justement, c'est d'avoir ses harmonies et sa science de l'harmonie du bebop sur ses phrases éclatées. C'est ce qui donne un petit peu le... C'est un petit peu, enfin, ces morceaux sont faits comme ça, de cette manière-là.
Il y a un côté très ouvert aussi dans la façon dont la section rythmique s'empare de vos compositions.
Oui.
On les sent très libres avec ça.
Oui, mais c'est quelque chose que j'aime aussi, parce que effectivement, je m'inspire de la tradition, ça c'est évident, mais j'adore aussi quand c'est ouvert. Donc si je peux avoir les deux, c'est encore mieux. Et c'est comme ça que j'envisage ma musique, en tous les cas, et mon jazz, si je puis dire.
Votre 50-50 sort pour vos 50 ans en 2021. Il y a 20 ans, vous étiez déjà jeune et beau, Pierrick Pedron.
J'étais moins beau.
On était en 2001. On était en 2001. Et vous aviez sorti votre premier album qui s'appelait Cherokee.
Ouais.
Vous vous en rappelez de cet automne in New York? Il était prophétique. C'était il y a 20 ans, Autumn in New York, dans le premier album de Pierrick Pedron, au saxophone alto, toujours, Cherokee. Avec vous, il y avait Baptiste Trottignon au piano, Vincent Artaud à la basse et Franck Agulon à la batterie.
Oui.
Je vous ai pas fait un mauvais coup en vous faisant écouter d'où vous êtes parti, Pierrick Pedron.
Alors, non, bien sûr que ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté cet album, mais ça me fait plaisir de le réécouter finalement. Voilà, j'écoute rarement mes disques, et là, le premier, là, d'un seul coup... Non, franchement, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas écouté.
Et vous étiez plus près de la lettre du bebop à cette époque-là que vous êtes aujourd'hui. Vous avez pris vos distances avec les influences, vous les avez digérées depuis, en 20 ans.
Alors, il est sûr qu'à ce moment-là, j'étais vraiment plongé dans l'univers de Bird. Toujours d'ailleurs. De toute façon, c'est tellement intemporel, Charlie Parker.
Je vous en réserve un pour tout à l'heure.
Ah, c'est gentil, merci. Mais j'écoutais aussi Sonny Stitt. Mmh. Voilà, je découvrais plus ou moins Sonny Stitt à ce moment-là, et ça a été vraiment une révélation aussi. Et là, vraiment, probablement pour cette raison que j'avais joué Autumn in New York en m'inspirant, je me rappelle très bien d'une version de Sonny Stitt.
Retour à ce 50-50 d'aujourd'hui, qui sort aujourd'hui, justement, Pierrick Pedron.
Yes.
Que vous appelez d'ailleurs, il y a un petit, entre parenthèses, 1.
Oui,
comme s'il allait y avoir un numéro 2, ce qui, pour 50-50, serait assez logique. C'est quoi votre idée, Pierrick ?
Alors, l'idée, finalement, c'est un faux double album.
C'est-à-dire que... Oui, parce que j'ai pas essayé de le démonter complètement,
CD. Mais je vous assure, il y en a bien deux. Alors, bizarrement, on a enregistré le deuxième volume avant le New York Session. C'est un album, j'aurai l'occasion, je pense, d'en reparler, mais c'est un album un peu plus dans l'esprit du groove. 50-50, c'est aussi, finalement, mes influences du moment.
C'est-à-dire que entre les deux, votre cœur balance.
C'est un peu ça. Et d'ailleurs, il y a une photo dans le disque où je suis en équilibre sur des rails de train, donc de chemin de fer. C'est ça, un petit peu. C'est-à-dire que c'est difficile pour moi de vraiment focaliser sur un style en particulier, parce que j'aime tellement la musique en général que voilà, je suis obligé de trouver un juste milieu. Il m'a semblé judicieux, justement, et c'était aussi d'ailleurs une idée, l'idée de Daniel, parce que Daniel travaillait aussi sur l'album. Daniel Vinec travaillait aussi sur l'album français. Donc, je dis français parce que je l'ai enregistré avec des musiciens français.
Et à Paris.
À Paris, oui, absolument. Et donc, cet album sortira, lui, à l'automne prochain.
Pour l'instant, on va se dire qu'on est au mois de mars, on est le 5 mars, c'est le jour de sortie de 50-50. On écoute un troisième extrait, Unknown No. 2.
Thank you.
Unknown, numéro 2. Le quartet réuni par Pierrick Pédron pour la première moitié de ce 50-50, les New York Sessions, qui sortent aujourd'hui sur le label Gazebo. Sullivan Fortner au piano, Larry Grenadier à la contrebasse et Marcus Gilmore à la batterie. Pierrick Pédron au saxophone alto. Je n'ai des frissons partout. Mais il y a un sens de liberté. Là, vous nous avez fait, je pense à tous les auditrices et auditeurs, un shoot d'oxygène. Vous êtes conscient, Pierrick Pédron, de la force de cette musique aujourd'hui, dans ce contexte-ci? Cette vitalité, elle nous fait sacrément du bien.
Mais je vous remercie beaucoup. J'aimerais bien que ça soit ça.
C'est ça. En tout cas, moi, je l'ai entendu comme ça.
J'ai évidemment des difficultés à prendre du recul parce que
je les connais. Vous avez dû prendre votre pied.
Bien sûr. C'était fantastique, cette séance de studio, parce que, dès les premières mesures, je savais que ça allait bien se passer. C'était extrêmement limpide. Ces gars-là étaient d'une gentillesse extrême et étaient très investis lors de l'enregistrement. Et ça m'a fait également un bien fou. Et je savais que j'étais en confiance. J'avais évidemment bien travaillé le répertoire. Et ça a été une expérience très limpide. Et la séance s'est très bien passée.
Ça circule, il y a une liberté là-dedans. Moi, j'ai l'impression d'avoir un ciel d'étoiles filantes. Ça bouge de tous les côtés et en même temps, c'est hyper cohérent. Ça avance ensemble.
Oui, parce qu'il y a des systèmes d'obligés, il y a des thèmes, il y a beaucoup de liberté. J'ai essayé justement, dans toutes ces compositions, de faire en sorte que ça soit assez riche et qu'il y ait à la fois des harmonies avec des choses particulières bien centrées et d'autres plus libres. Mmh. Donc voilà.
Alors, Pierrick Pédron, on va revenir à la question du début pour savoir qui sont les heureux gagnants de des 10 exemplaires de l'album que vous nous avez amené. Qui était donc le pianiste de votre troisième album, celui qui avait été réalisé à New York en 2005?
La réponse est Mulgrew Miller.
Voilà, Mulgrew Miller. Bravo donc à, je vais les citer les 10, à Marie-Claude Hugues de Vaud dans les Alpes de Haute-Provence, Chantal Saliba de La Rochelle, Pierre Bévillon de Saint-Jean-la-Poterie dans le Morbihan, Valérie Avril de La Tourette dans la Loire, Zaïta Castillo qui nous écrit d'Oxnard, c'est en Californie, figurez-vous, donc... Il est 9h30 du matin là-bas. Gisèle Libotte de Bougival dans les Yvelines, Gilles Delair de Périgueux, Clara Jenkins de Saint-Christophe dans le Tarn, Mireille Chalard de Toulouse et Noro Ranaivoarison, Ranaivoarison de Antananarivo à Madagascar. Il travaille à l'Institut français de Madagascar. Voilà, vous voyez.
Merci beaucoup.
Eh bien, c'est 50-50. On a fait quasiment le tour du globe, là. Avec un coup à Madagascar, un coup en Californie.
Ouais.
Vous savez où il vous reste à enregistrer. Je disais tout à l'heure, 60-60, 70-70. Voilà, il y a de la marge.
C'est vrai, j'ai un petit peu le temps. Ouais.
Open Jazz. Alex Dutil, France Musique.
Mon jazz au trésor de la semaine présentait deux saxophonistes un peu facétieux. Contrairement à vous, Pierrick, qui vous concentrez sur le saxophone alto. D'ailleurs, un modèle que vous avez mis au point chez Selmer, si je me souviens bien.
Oui, absolument. Hein, c'est un modèle référence.
Voilà. Jerry Mulligan et Stan Getz, en 1957, pour l'album Getz meets Mulligan in Hi-Fi, avaient échangé leur saxophone sur la face A. On a déjà entendu deux extraits dans la semaine. Voici le troisième. Anything Goes avec Mulligan au ténor et Getz au baryton. Thank you. Ils y arrivent sacrément bien. Hein. Mulligan au ténor, Stan Getz au baryton, Lou Levy, Ray Brown, Stan Levy pour la section rythmique. 12 octobre 57 à Los Angeles. Vous êtes déjà essayé au baryton, vous, Pierrick Pedron, ou au ténor? Parce que je sais que vous jouez du soprano de loin en loin.
Oui, un petit peu de soprano. Mais vraiment, c'est assez. C'est un métier de jouer le soprano. Il faut faire que ça. Enfin. Je sais qu'il y a des musiciens qui jouent plusieurs saxophones et qui le font très bien. Enfin, en ce qui me concerne,
alto.
Non, c'est pas la peine le soprano. Voilà, c'est pas très bien.
Mais l'alto, vous va très bien.
L'alto, ouais.
Alors, et dans le ténor.
Alors le ténor, oui, j'en ai fait un tout petit peu, mais je me sens pas très bien avec un ténor. C'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de physique en fait. Voilà, j'ai envie de jouer de l'alto. Et puis peut-être aussi par flemme aussi de mettre au ténor et de travailler un petit peu l'instrument. J'ai simplement, pour l'instant, envie de me consacrer qu'à l'alto.
Et je pense tout d'un coup à des gens comme Phil Woods, qui étaient des magnifiques altistes et qui jouent aussi de la clarinette.
Oui.
Ça vous a pas tenté?
Non plus.
Pierrick Pedron?
Non plus. C'est un instrument complètement différent. Même s'ils font partie de la même famille, mais les doigtés sont différents. Et il me semble que Phil Woods a commencé par la clarinette. Donc, quand on commence par cet instrument, c'est plus facile déjà, parce qu'en général, les clarinettistes changent d'instrument et se mettent au saxophone, du coup, jouent les deux. L'inverse est plus rare. Donc non, pas de clarinette, désolé.
Allez, un des plus grands solos de l'histoire du jazz au saxophone alto. Charlie Parker, Coco. Thank you. Incroyable. Ouais. Coco, Charlie Parker, on est le 26 novembre 1945. Dizzy Gillespie, trompette et piano. Il alternait sur ce morceau-là parce que le pianiste Argon Thornton se sentait pas à la hauteur. Miles Davis non plus à la trompette. Et c'était Curly Russell à la basse et Max Roach à la batterie. J'imagine, quand on est saxophoniste alto en plus, Pierrick Pedron, Coco, ça fait partie du biberon. Vous l'avez appris par cœur, relevé, rejoué.
Jouer, relever, transposer, tout ce qu'on peut faire avec la musique de Charlie Parker. Et en l'occurrence, ce morceau Coco, qui fait vraiment partie des joyaux de Bird.
Alors pour les amateurs de bebop, je signale que demain matin, sur France Musique, dans la matinale du samedi, Christophe Edilis, dans sa séquence hebdomadaire, nous présentera le bebop expliqué à un musicien classique. Voilà, ça nous change de Brahms expliqué au jazzman.
Oui, hein, c'est vrai.
J'ai une histoire de saxophone altiste maintenant pour vous, Pierrick Pedron. Une histoire que j'ai trouvée dans le New York Times le mois dernier. C'était le 1er février. Il y a un dessinateur qui, toutes les semaines, fait une page très très graphique, très beau dessinateur. Il s'appelle Paul Rogers et il consacrait sa page à la fascination réciproque de Audrey Hepburn et de Paul Desmond. Et l'histoire qui tient sur une page démarre au printemps 54, quand Audrey Hepburn jouait à Broadway dans Ondine, dans un théâtre de Broadway, le 46th Street Theater. Et le quartet de Brubeck était à quelques blocs de là, au Basin Street. Chaque soir, Paul Desmond demandait à Brubeck de prendre l'entracte à une heure bien précise. Il se ruait à l'extérieur, il traversait Times Square et il guettait Audrey Hepburn pour la voir s'engouffrer dans une limousine derrière l'entrée des artistes à la fin de son spectacle. Sans rien dire, il était anonyme dans le coin de la rue. Et cette année-là, Paul Desmond avait composé Audrey pour l'album Brubeck Time. Quand Paul Desmond est mort d'un cancer des poumons en 1977, il était resté célibataire toute sa vie et il a jamais su si Audrey Hepburn avait connu sa composition Audrey. Et à la mort de Audrey Hepburn, en 1993, son mari, Andrea Dotti, appela Dave Brubeck pour lui demander si le quartet accepterait de venir jouer Audrey à ses obsèques, qui devaient se dérouler aux Nations Unies à New York. Et quand Brubeck fit part de sa surprise, je savais pas que vous aviez connaissance de cette composition. Le mari de Audrey Hepburn lui a répondu « Ma femme écoutait ce morceau chaque soir avant de s'endormir. » Thank you. Paul Desmond au saxophone alto et qui avait composé ce Audrey pour le quartet de Dave Brubeck en 1954 pour l'album Brubeck Time. Et c'était Bob Bates qui était le bassiste à ce moment-là et Joe Dodge le batteur. C'était pas encore le grand quartet de 1959. Quel altiste!
C'est sublime.
Quel art de la mélodie, Pierrick Pedron, chez Desmond.
Le son Desmond, c'est quelque chose d'unique.
Desmond et merveille. Ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça a déjà été titré par des confrères dans la presse écrite. Mais en tout cas, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. On va se quitter par un petit détour du côté de Montréal pour un trio qui s'appelle MISC. C'est Jérôme Beaulieu qui est le pianiste, il joue aussi des synthés. William Côté est à la batterie, Simon Paget à la basse électrique. Et MISC sort aujourd'hui un album qui s'appelle, curieusement, Partager l'ambulance, avec cette composition co-signée par les musiciens, le Preacher. Le trio montréalais MISC, M-I-S-C, dans cet album Partager l'ambulance, qui sort aujourd'hui chez Bond Sound, avec Jérôme Beaulieu, William Côté et Simon Paget. La scène québécoise, vous êtes allé déjà jouer là-bas, j'imagine, au Festival de Montréal, entre
oui,
autres, Pierrick Pedron.
Il y a quelques années, effectivement, je dirais 2013. Je pense que c'était 2013, et à cette époque-là, je défendais un album qui s'appelle Cheerleaders.
Cheerleaders,
ouais.
Qui était chez ACT.
Absolument.
Et vous avez établi des contacts avec la scène du jazz de Montréal ou pas vraiment?
J'ai quelques amis là-bas, mais c'est vrai que je suis allé une seule fois à Montréal. Donc oui, j'entretiens quelques contacts avec des musiciens, mais...
Ça vous est moins familier que New York, évidemment.
Et que l'Asie, surtout. Ouais. Et absolument, mais j'aimerais bien y retourner.
Bon, bientôt. Nous, on aimerait bien que vous retourniez sur les scènes françaises aussi. Hein. J'imagine que
aussi.
Vous aussi.
Je nous le souhaite.
Merci, Pierrick Pedron, d'être venu nous présenter ce 50-50.
Merci, Alex.
New York Session, le premier volet. On se donne rendez-vous à l'automne pour le deuxième. Sullivan Fortner, Larry Grenadier, Marcus Gilmore. Et les dédicaces ne vont pas tarder. Les stylos sont à votre portée. Avec moi pour faire cet Open Jazz ce soir, Audrey Gélil. Ah oui, on a vu Audrey Byrne tout à l'heure, Eric Carrère, Gérard Chan, Emmanuel Lacaze et Fabien Flora. Lundi, dans Open Jazz, le groupe belge Echoes of Zoo. D'ailleurs, je signale que Echoes of Zoo est ce soir à 20h en live stream depuis le club qui s'appelle l'Ancienne Belgique sur Facebook.
À réécouter sur francemusique.fr.